SR, Alexandre Abbey.
En hockey sur glace, Ligue nationale A, Genève accueille ce soir le champion zurichois. Un champion pour le moins malmené ce soir par Servette à l'Intévo.
Et le vice-champion de Suisse, Genève Servette, qui s'impose 7-0 après 35 minutes de jeu dans cette rencontre. Festival de buts au Vernet. Goran Bezina a pu marquer à deux reprises. Deux buts également pour Salman Lainen. Savary, Kolnik et Ricci sont les autres buteurs de Genève Servette. À noter que le gardien finlandais Harry Solander a dû céder sa place après le 6-0 à Lucas Fluller, qui lui a également capitulé après 61 secondes. Sur les autres patinoires en Ligue nationale A, Bienne mène à Ambri-Piotta 3-2. Lugano s'impose à Saint-Léonard face à Fribourg-Gotteron 2-1. C'est un partout entre Rapperswil et Kloten. Berne mène à Langnau 2-1. Et pour leur victoire de Davos à Zoug 2-1. En Ligue nationale B, on joue la 36e journée. Bâle s'impose face à Sierre 2-1. Même score pour Grasshopper face à Lausanne. Ajoie mène à Langenthal 2-1. La Chaux-de-Fonds s'impose à Turgovie 3-2. Et Jungsprinters Neuchâtel s'incline face à Holten 3-2.
Alain Thévaux en direct de la patinoire des Vernets à Genève. La Suisse et l'Autriche ont annoncé aujourd'hui qu'elles suspendaient leur garantie à l'exportation pour le projet controversé du barrage d'Ilisu en Turquie, comme l'Allemagne hier. Les trois pays donnent encore 180 jours à la Turquie pour remplir les standards de la Banque mondiale en matière environnementale et sociale. Et les entreprises suisses et autrichiennes impliquées dans la construction du barrage d'Ilisu sont déçues. Elles critiquent la décision des agences à risque à l'exportation qui est exagérée selon elles et constitue un mauvais signal à la Turquie. Le gouvernement guinéen est toujours en place malgré la tentative de coup d'état militaire en cours à Conakry. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre guinéen sur les ondes de Radio France Internationale. Des négociations seraient en cours entre le gouvernement et la frange de l'armée qui s'est soulevée suite au décès du président Lanzana Condé. La Commission européenne a par ailleurs condamné ce coup de force militaire en Guinée. Les députés irakiens ont ouvert la voie aujourd'hui in extremis au maintien jusqu'en juillet 2009 de la présence en Irak de troupes étrangères non américaines. Après un premier échec au Parlement hier, ils ont finalement mandaté le gouvernement pour signer des accords avec 5 pays de la coalition, dont la Grande-Bretagne. Le skipper Yann Eliès a été opéré avec succès à Perth en Australie. Le Français s'était fracturé le fémur sur son monocoque. Il avait attendu de l'aide durant 2 jours dans l'océan Indien. Et Dominique Vavre n'est quant à lui pas encore arrivé en Australie. Il manque encore 1850 km au Genevois pour atteindre Fremantle, où il fera réparer sa quille endommagée qu'il avait forcé à abandonner la course. Il fera frais cette nuit, les températures descendront à moins 4 en Valais. Demain, des bancs de stratus stagneront en plaine jusqu'à la mi-journée, puis ils se dissiperont progressivement. Les valeurs maximales oscilleront alors entre 3 et 5 degrés en plaine.
Alors là, on en est resté au moment où entre en scène le beau capitaine Phébus qui arrache Esmeralda aux sales pattes de Quasimodo. Gringoire s'est planté et Phébus est le héros.
Esmeralda, Quasimodo, Frollo, Phébus, Gringoire, Fleur de Lys vous rappellent de lointains souvenirs. La première vous propose le feuilleton de Notre-Dame d'après Victor Hugo du lundi au vendredi à 14h. Drôle d'histoire. Lolita et Muriel Mera.
Bonsoir à vous et bonsoir Lolita.
Bonsoir Muriel et bonsoir tout le monde.
Si vous êtes des habitués de drôles d'histoires, vous avez sans doute déjà entendu Lolita vous raconter de temps à autre des textes écrits par des auditeurs ou des auditrices. Ces récits sont d'une telle qualité qu'avec Lolita, nous nous sommes dit que c'était dommage de les laisser dormir dans un tiroir. Nous avons donc décidé de profiter de ces fêtes de fin d'année pour les partager avec vous. Au menu de ce soir, il y aura une courte nouvelle de Nicolas Couchepin qui vient de publier La théorie du papillon, son troisième roman. Des poèmes d'amour à un brin coquin, signé Gérald Fabrice. Une variation sur le thème de la mort proposée par Nicolas Lotelier. Puis une invitation à déguster du thé, lancée par Virginia Bernal. Et ensuite, une rencontre amoureuse, imaginée par Nicolas S. Mais avant de nous lancer dans ces récits, voici une première chanson choisie par Nathalie Schauenberg. Et si nous pouvons l'écouter, cette chanson, c'est parce qu'en régie, il y a Isabelle Barthes, notre technicienne aux doigts de fée. C'est Brisa Rocher qui ouvre les feux dans le vert de ses yeux.
Dans le vert de ses yeux, il y avait d'autres terres. Dans l'immense clairière, des châteaux fabuleux, et rien n'était chimère. Dans le vert de ses yeux, dans le vert de ses yeux, il y avait l'espérance. Un jour je m'en souviens, un pays d'amour, et j'ai cherché en vain pour retrouver le chemin qui mène sous d'autres cieux au pays de ses.
Le premier texte que nous vous proposons ce soir est signé Nicolas S. Et pour tout vous dire, S, en fait, c'est un pseudo. Ce qui s'est passé, c'est que quand Nicolas S a envoyé ses textes à Drôle d'Histoire, il était tellement sûr que ce qu'il avait écrit était très mauvais qu'il ne voulait surtout pas qu'on donne son nom à l'antenne. Il a donc demandé à Lolita de ne mentionner que la première lettre de son nom.
C'est vrai, il voulait garder l'anonymat.
Donc S. Et puis lorsqu'il a entendu Lolita lire ses textes, il a réalisé, là je le cite, que ça sonnait vraiment bien. Il a même précisé, on aurait dit de vrais textes, de vraies nouvelles. Grâce à cette révélation, et ça c'est véridique, Nicolas S a donc continué à écrire. Et le fameux S de son nom s'est transformé en pseudo. Un pseudo qui s'écrit désormais H-E-2-S-E. Et là, Nicolas S vient d'achever son premier roman. Il s'appelle « Les hommes préfèrent la guerre » et devrait être présenté au Salon du Livre de Genève au printemps prochain. Cette belle aventure fait dire à Nicolas S que, deux points, ouvrez les guillemets, les meilleurs contes de Noël sont encore les histoires vraies. Son conte de Noël à lui a débuté le 30 mars 2004, quand Lolita a lu sur les ondes de la première cette nouvelle qui nous parle d'une rencontre amoureuse. L'autre jour, j'ai fait partie des autres. J'étais un peu fatiguée, pas trop envie de rentrer alors que le soleil traînait encore sur les terrasses et qu'un vent parfumé passait en courant sous les jupes des filles. Je m'assieds. Derrière la buée qui se forme sur le verre, mon regard flotte sur la foule calme qui remonte la rue pavée. On dirait que le temps se repose. C'est peut-être le bruit de la fontaine, ou alors cette chaleur diffuse, ou juste l'été qui s'est posé en douceur sur la terre. La lumière dorée illumine le teint des femmes. Mon regard s'attarde sur la ligne nette d'une épaule dénudée, sur une jambe qui se glisse au travers d'une large fente taillée haut vers la ligne des hanches. Je devine une poitrine fière et dressée à travers un corsage tendu, une main nerveuse aux ongles carmin, un pied s'échappe d'une sandale nue, une chaîne dorée illumine une cheville, un bustier étroit souligne une taille élastique. Les soirs d'été, les hommes devraient passer plus de temps à contempler les femmes qui passent. Je m'étire avec volupté. Ça fait 12 ans que j'ai arrêté de fumer, mais là j'allumerais volontiers une cigarette, juste pour l'odeur et pour sentir le papier rouler sous mes doigts. Devant moi vient de s'asseoir un couple. L'homme me présente un dos massif, des épaules de déménageur et une nuque lisse, coiffée avec soin. Il semble nettement trop épais pour la chaise délicate qui le soutient, trop solide pour la femme aérienne qui lui fait face et qui trempe à peine ses lèvres dans son verre. Elle boit comme un oiseau, et lui sourit avec amusement. Malgré moi, je capte quelques bribes de conversation. Il est ravi qu'elle ait accepté son invitation. Il a longtemps hésité, mené sa petite enquête pour être sûr de ne pas commettre d'impair, questionner ses collègues, trouver quelques indices sur son âge, ses préférences et ses goûts. On dirait que c'est un minutieux. Il a préparé un plan. S'est arrangé avec quelques complices pour se retrouver en face d'elle à la cafétéria ce midi. Donc il a établi le contact. Ils ont parlé de voyage et se sont découverts une passion commune pour Londres. Sur la base des renseignements fournis par Claire, une collègue qui la connaît bien. Ce qui a délié les langues et permis de rebondir sur l'Écosse, l'Irlande, les brouillards anglais, la chaleur des pubs et suite logique, sur une invitation pour un verre, sur cette terrasse posée sur les pavés d'une rue piétonne. Leur bureau ne doit pas être bien loin. Le type, ravi, lui explique tous les détails de la phase d'approche. La préparation, la mise en place et l'exécution. Elle a constamment dans les yeux un sourire double, amusé et moqueur. Je le vois continuer, pousser ses pions, faire son chemin avec méthode. Ce type a un but. On le sent pressé de conclure, d'emballer, de sortir son trousseau de clés où l'insigne BMW brille de mille feux, de l'asseoir dans son roadster de place, de faire jouer le mécanisme du toit escamotable pour enfin s'envoler dans le gémissement de tous ces chevaux vapeur en route, eux aussi. Il y aura ensuite les bougies sur la nappe immaculée, le même trousseau de clés qui ouvre la porte du duplex penché au bord de l'eau et le lit déjà ouvert, où elle découvrira une forme nouvelle de plaisir. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Un rapide. Ce qui ne colle pas, c'est la lueur. L'étincelle dans le regard de la fille. Ses yeux gris-verts soulignés par quelques rides légères qui me sèchent la gorge. J'aimerais bien en effacer le contour du bout des doigts. Mais bon, Mr. Vroom semble sûr de son fait. C'est une affaire qui roule. Je me replonge dans la contemplation de la rue et de ses charmes, tout en l'observant du coin de l'œil. C'est alors qu'elle incline légèrement son visage, vient accrocher franchement mon regard et me décroche un sourire éblouissant. Un sourire complice. Supercarburateur n'a pas bronché, trop occupé à raconter son enfance dorée. Surdoué, fils de surdoué, sportif, golfeur, à mi-chemin entre Léonard de Vinci et Leonardo DiCaprio. Elle l'écoute. Fascinée, elle a posé son menton dans sa main droite et son regard saute l'épaule du type pour venir se planter dans le mien. Les montres retiennent leur souffle. Le soir descend, le type se lève. Ça donne soif de parler autant. Le serveur se terre à l'intérieur et James Bond reprendrait volontiers quelque chose. Je le vois disparaître derrière la porte vitrée. Le même mouvement nous éjecte de nos chaises. Elle me tend la main. Nous partons, laissant deux chaises vides, deux verres embués et pour ma part, une addition que je n'ai pas réglée. 007 s'en chargera. Je la prends par la taille et je sens le grain de sa peau dorée rouler sous le chemisier échancré. Son bras entoure la base de mon dos. Elle a glissé une main dans la poche de mon pantalon. Nous déambulons sur les pavés. Nos pas se mélangent et je sens vibrer les muscles de sa cuisse contre la mienne. Nous courons presque. Sur notre droite s'ouvre une ruelle. Dissimulée par la foule haletant, nous attendons son retour, juste pour le plaisir. Deux enfants qui jouent à cache-cache. Et le type revient. On croirait une caméra cachée. Il regarde à s'en dévisser la nuque, traverse la terrasse de part en part et finit par soulever la nappe en coton jaune, pensant retrouver sous la table celle qu'il vient de perdre pour un panaché. Va-t-il déceler les pavés de ses mains puissantes pour découvrir une plage improbable où elle l'attendrait, dorée à point et prête à consommer ? Lorsque je découvre le visage furieux de super tombeur qui émerge des profondeurs de la table, je sens monter en moi les premières vagues d'un fou rire qui me submerge aussitôt. Elle et moi nous sommes accroupis à l'abri de ce coin de rue et nous rions à en perdre haleine. Elle a les cheveux en désordre qui viennent se coller sur le visage. Elle essaye de se contenir, essuie les larmes qui s'accrochent au bord de ses cils. Nous remontons à la surface pour reprendre une gorgée d'oxygène et le rire nous entraîne à nouveau par le fond. Nous nous sommes assis sur le trottoir. Je prends son visage inondé à deux mains, caresse sa bouche tendre du bout des doigts et je contemple calmé les dernières marées qui submergent ce regard ruisselant et dilué par le rire. Nous avons le temps de nous détailler, de nous sentir et de mesurer le poids de la nuit qui s'installe entre nous. Elle est partie sur un geste de la main. Il faut aimer les soirs d'été.
Drôle d'histoire, les récits des romans.
Thank you. say Marvin Gaye, your father didn't want you to die. There would be no black or white, the world would just treat my wife right. Hey, hey, hey. We could walk down a Mississippi, no one would look at us twice. Hey, that's my dream. That's my dream world. It's more than a dream.
J'étais une petite fille pleine de vie et de joie. Un jour que j'étais très gentille, mon père me rapporta un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il roulait, bap quand il tournait, bzz quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. Tout étonné la première fois quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zip quand il roulait, bap quand il tournait, bzz quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. Il marcha comme un militaire, tout à coup il s'assit. Il passa sous une chaise et puis sous le lit. J'ai pleuré tandis que mon père lui riait aux éclats. Car en me retournant, je vis le jouet qui était derrière moi. Il faisait zip quand il roulait, bap quand il tournait, bzz quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. Les années ont c'est trop vite, et justement hier, dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. Il était vieux et tout rouillé, mais quand on l'a posé par terre, il faisait toujours ça quand il roulait.
Un monde de rêve pour Robin Thicke et puis la grande Sophie qui s'amusait avec le jouet extraordinaire de Claude François. Pour continuer ces drôles d'histoires, on va parler maintenant de Nicolas Couchepin, un monsieur dont le nom revient beaucoup ces derniers temps, puisqu'il vient de publier chez Infolio un livre qui connaît un joli succès et qui s'intitule « La théorie du papillon ». Auparavant, Nicolas Couchepin avait déjà publié 2 livres aux éditions Zoé, et entre 1998 et 2004, il a également écrit 3 pièces de théâtre. Nous, c'est en 2005 que nous avions été contactés par Nicolas Couchepin qui nous avait envoyé un texte en nous demandant si on voyait un intérêt à le lire sur les ondes. L'intérêt était certain, son texte nous avait vraiment bien plu, donc on vous l'avait fait découvrir à l'antenne. Aujourd'hui, Nicolas Couchepin est un auteur confirmé, et c'est sûr qu'il y a 3 ans, son talent se percevait déjà dans ce texte magnifique d'amour et de mort qui a pour titre « Quel que soit notre désir ». Quel que soit notre désir, on n'a pas toujours l'occasion de prononcer des paroles historiques dans les moments décisifs de l'existence. En ce qui concerne mon ami Pierre, « Merde, foutu lacet !» furent ses derniers mots. Il aurait été très malheureux d'apprendre qu'en ce dernier instant de son existence, il ne pourrait prononcer nulle citation digne de figurer au pinacle de l'intelligence et de la finesse d'esprit, quelque chose du genre « Orage, au désespoir, aux camionnettes ennemies ». S'il avait su que l'heure était venue, il aurait cherché frénétiquement et sans doute trouvé quelques sentences tendrement ironiques, discrètement interrogatrices ou subtilement méchantes sur le sens de la vie. Le fait est que ce fut « Eh merde, foutu lacet !» Rien de plus spirituel ne lui vint. Il faut dire que des événements aussi peu en rapport les uns avec les autres, s'enchaînant à un rythme aussi soutenu et conduisant à une fin aussi dérisoire, une envie de cigarette, des lacets mal noués, un trébuchement intempestif, une camionnette folle, contrairement à son conducteur qui ne regardait pas la route parce qu'il était en train de s'engueuler avec sa petite amie sur son portable. Bien toutes ces choses ont quelque chose de comiquement irrémédiable qui ne favorise pas la citation éternelle. Le fait est également que les lacets des chaussures de Pierre étaient vraiment nuls. Il se défaisait tout le temps, en tout cas pas de taille ni de calibre à résister à un coup de pouce du hasard. J'étais là, une seconde avant, nous nous tenions la main, furtivement et brièvement, parce que nous étions dans la rue et que, quel que soit notre désir, les gens de la rue n'aiment pas le spectacle de la tendresse et de l'amour quand ils n'aiment pas triomphal ou politiquement correct. Quel que soit notre désir, on n'a pas toujours l'occasion d'ignorer la dérisoire malice de notre condition humaine. En effet, si Pierre et moi nous avions gardé nos mains étroitement et franchement liées, au lieu de les lâcher sans cesse, de les faire danser un pas de deux fait d'effleurements secrets et furtifs, si nous avions marché du même pas, ouvertement, non pas clandestinement, si nous avions décidé d'accorder pour une fois la priorité à notre tendresse l'un pour l'autre, plutôt qu'au « qu'en dira-t-on ?» Si nous avions revendiqué une sexualité plutôt qu'une autre, ou plutôt si nous avions eu suffisamment confiance en nous pour ne pas revendiquer une sexualité plutôt qu'une autre. Si comme d'autres amoureux qui marchent la main dans la main, sans plus même penser à ce qui leur tient chaud, là, dans la paume, sous le cœur et dans les reins, nous avions réduit ne serait-ce que d'1 centimètre la distance qui séparait nos hanches, si ce matin, comme tous les matins de notre existence, nous avions eu des raisons de penser que les gens de la rue seraient touchés, attendris ou même simplement indifférents au fait que nous nous aimions, si nous avions cru une seconde que les gens de la rue pourraient, pour une fois, accepter de contempler leur ressemblance avec nous, après tout, rien ne ressemble plus à un couple d'amoureux qu'un autre couple d'amoureux. Si nous avions avancé dans la rue et dans la vie, avec un sentiment de sécurité plutôt que de fraude, de reconnaissance plutôt que de culpabilité. Bref, si nous n'avions pas été de longue date, depuis toujours, de ces gens qui n'ont d'autre choix que de calculer leurs gestes et leurs expressions lorsqu'il s'agit d'amour, que l'on pousse à se définir presque uniquement par la manière dont ils font l'amour, que l'on incite à cataloguer leurs différences, peut-être pour qu'elles soient un peu moins différentes, un peu moins alarmantes aux yeux des gens de la rue, ou même si nous avions simplement décidé ce matin-là de braver modestement les conventions et de ne pas cacher que nous nous aimions, si nous avions fait une seule de ces choses, ou d'autres encore qui ne me viennent pas à l'esprit maintenant, Pierre n'aurait pas trébuché, ne serait pas tombé exactement sous les roues de la camionnette de ce foutu hétérosexuel à portable, et ses dernières paroles n'auraient certainement pas été « Merde, foutu lacet ». Je me dis aujourd'hui que tous ces « si » n'ont d'autre utilité que de donner un peu de sens à mon chagrin, de le rendre un peu moins hasardeux, de le formater un peu. Je me dis aujourd'hui que tout était orchestré depuis bien avant notre naissance, à Pierre et à moi. En effet, si nos mères n'avaient pas rencontré nos pères, événement sur lequel nous n'eûmes jamais la moindre influence, s'ils ne s'étaient pas aimés, du moins nous l'espérions sans être certains, de cela on n'est jamais certain pour les autres, si ses parents n'avaient pas engendré Pierre et les miens, moi, juste une année plus tard, s'ils n'avaient pas élevé vaille que vaille, ensemble ou séparément, deux petits garçons, très tôt un peu trop solitaires, pas assez liants dans la cour de l'école, trop sensibles, un peu délicats, obscurément attirés par les actes de révolte, ou peut-être obscurément rebutés par eux, trop tôt découvrant avec angoisse ou jubilation qu'ils étaient différents, qu'ils n'y pouvaient rien, que cela faisait pleurer leur mère et qu'ils n'y pouvaient rien non plus, trop tôt comprenant aussi le pouvoir des larmes de leur mère, qui les empêchait de s'endormir avant qu'il soit très tard et les poussait très tôt à se révolter ou à se taire pour toujours. Si tout cela n'avait pas été l'histoire en quelque sorte universelle qui nous était arrivée tout à fait personnellement à tous deux, Pierre n'aurait pas eu pour dernier mot « foutu lacet ». Mots qui amenèrent brièvement un sourire de tendresse sur mes lèvres, très brièvement, avant que la camionnette du foutu bavard hétérosexuel qui parlait à son ami comme à un chien ne me le cloue dans la gorge, mon sourire, avant que tout sourire ne me soit cloué dans la gorge pour longtemps, avant qu'il ne soit remplacé pour longtemps par une espèce d'incrédulité épouvantée, une stupeur momifiante, un chagrin qui confine au désespoir faute de pouvoir être exprimé, un vide dense et intense que je ne peux même pas remplacer, ou du moins adoucir, par le spectacle du chagrin des autres gens qui aimaient Pierre aussi. Car personne ne veut partager son chagrin avec moi. Il est vrai que le chagrin des autres, de son père et sa mère, de ses frères et de ses sœurs, de ses cousines et cousins, de ses amis et ennemis, de tous ces gens qui comptaient pour Pierre et pour qui Pierre comptait, ce chagrin est un chagrin de premier rang d'église. C'est un chagrin triomphal dans lequel se trouve peut-être, comme dans tout chagrin, un tout petit zeste de satisfaction parce qu'on sait pourquoi on pleure. C'est un chagrin rare et beau, c'est un chagrin licite. Mon chagrin à moi est un chagrin de requérant, d'immigré, de suppliant, de coupable, de dernier rang, de « rappelez-moi votre nom déjà ». C'est un chagrin sans définition précise, sans reconnaissance, sans intérêt particulier. Le chagrin d'un homme, comme ça, vous savez bien. La seule chose qu'il a pour lui, mon chagrin, c'est que c'est le mien, justement, à moi seul, moi qui aimais Pierre et que Pierre aimait. Voilà quelque chose qu'on ne me prendra pas. Pour ce qui est de notre amour l'un pour l'autre, il n'y a pas de si.
Falling teenager with acne, every face that's spoiled by beauty, every adult tamed by duty, are all falling at your feet. Every eye closed by bruise, every player who just can't lose, every pop star hurling abuse, every drunk bat pulling booze, all falling at your feet. Oh, I'm falling at your feet. All fall down. All the information.
On arrête un court moment le cours de cette émission pour prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Martigny-Vevey, un poids lourd en panne provoque des perturbations dans le tunnel de Glion en direction de Vevey.
Drôle d'histoire, les récits des romans.
Sonnait mieux autrefois. Oh my baby, chanteriez-vous quelques notes avec moi pour le reste de la vie? J'en ai mangé des guimauves, mais ce soir j'en ai ma dose. J'ai jeté toute ma bibliothèque rose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Bobby chéri. Quelque chose, vous et moi, que les autres n'ont pas. Oh my baby, shall we play another game, you and me, pour le reste de la vie? J'en ai mangé des guimauves, mais tu vois, j'en ai ma dose. Je te bade, vas-y, fais quelque chose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Bobby chéri.
Thank you.
C'était Émilie Loiseau qui nous chantait Bobby Chéri dans Drôle d'Histoire. Et comme l'amour, il n'y a que ça de vrai, nous allons poursuivre la soirée avec un poème d'amour signé Gérald Fabrice. C'est en 2004 que Gérald Fabrice a envoyé pour la première fois ses poèmes à Drôle d'Histoire. Il n'a jamais cherché à les faire publier, car Gérald Fabrice écrit avant tout pour le plaisir. L'écriture, m'a-t-il dit au téléphone, lui permet de se projeter dans un univers de rêves. De rêves et d'amour, comme dans ce poème intitulé « J'inventerai ». J'inventerai la fête où tous les amoureux s'en iront deux par deux chanter au coin des rues. J'inventerai la fête où tous les amoureux remplis de rêves heureux s'en iront par les nues. J'inventerai des bois où tous les arbres morts remettront des feuilles d'or pour fêter les saisons. J'inventerai des champs où les couples enlacés se joindront pour danser quand viendront les moussons. J'inventerai des champs où les notes fuiront chercher le diapason sur un thème d'amour. J'inventerai un ciel où les astres luiront comme 1000 lampions pour garder les beaux jours. J'inventerai des mers où des bateaux fleuris porteront tout Paris pour des soirs de folie. J'inventerai des lits couverts de draps de soie pour les instants de joie. Pour vous, femme jolie.
Oui, je sais qu'ici tout est très, très beau. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, c'est tout. Oui, je sais qu'ici tout est magnifique. Les cerisiers en fleurs et les filles en beauté. Je sais où est le paradis. C'est ici bas le paradis. Les cerisiers en fleurs et les filles en chaleur. Je sais où est le paradis. J'y suis, j'y reste au paradis. Je sais qu'ici tout est très, très beau. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, c'est tout. Je suis déjà au paradis. Il suffisait de le savoir. Les cerisiers en fleurs et les filles en chaleur.
Oh,
Durache, accompagné au piano par John Miyake pour Le Voyageur Solitaire. Le principe de cette émission Drôle d'Histoire, sous-titrée Le Récit des Romans, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des textes qui nous ont été envoyés ces dernières années par différentes personnes qui aiment écrire et qui viennent des quatre coins de la Suisse romande. Et chacune de ces personnes dont on a choisi de relire un texte en ce mois de décembre, on les a recontactées tout récemment pour les avertir de cette nouvelle lecture. Mais il y a des gens dont on n'a pas retrouvé la trace, et c'est le cas de Virginia Bernal. Virginia, elle nous avait envoyé en 2005 un texte qu'elle avait écrit sur le bonheur de boire du thé. Depuis, elle a changé d'adresse et peut-être de nom de famille. En tout cas, on n'est pas arrivé à la retrouver, et on ne sait donc pas si elle continue à écrire, ni même si elle continue à boire du thé. Mais en 2005, elle aimait vraiment ça, et elle décrivait ainsi le plaisir et la complexité aussi de préparer du thé. J'aime le thé, l'été. Autant le dire tout de suite, les automates à boissons préfèrent la jante café plutôt que la jante thé. Un café qu'ils se nomment expresso, ristretto, cappuccino, viennois ou renversé, c'est ce liquide brun avec ou sans lait, avec ou sans mousse. L'ingénieuse machine automatique défie tous vos souhaits et toutes vos attentes en matière de caféine. Vous appuyez, vous attendez quelques secondes et déjà l'ersatz de percolateur vous sert et vous pouvez savourer votre breuvage. Un thé, c'est beaucoup plus complexe. Le thé nécessite du temps, au moins celui de l'infusion et de la disponibilité. Mieux vaut avoir les deux mains libres, dans l'une la tasse, dans l'autre la théière. Un buveur d'expresso en engloutira 3 ou 4 avant que vous n'ayez pu porter une tasse de thé à vos lèvres. Bien sûr, on pourra gagner du temps si on prend du thé en sachet et en gagner encore si l'on s'abstient d'ébouillanter la théière au préalable, mais on risque alors de se retrouver avec un bouillon tiédasse nous privant de l'arôme des paysages indiens, chinois, japonais que renferment les feuilles. Le thé se boit chaud, très chaud, avec ou sans sucre. Quant au lait, ah, le lait, liquide banal et usuel par excellence, s'il ne pose aucun problème dans le cas du café, il en devient un majeur dans le cas du thé. Que ce soit avec le serveur au restaurant ou avec l'automate à boisson, incertitude et perplexité dominent. La plupart du temps, le serveur vous assènera une dose de crème qui dénaturera tous les arômes. Et l'automate, lui, il vous livrera la quantité de lait nécessaire à un chocolat chaud. Et si, prévoyant, vous avez détourné une tasse taille expresso afin d'extorquer un tout petit peu de lait chaud, vous serez forcé de laisser s'écouler le reste du liquide blanc dans le vide jusqu'à l'arrêt automatique, la machine étant invariablement réglée à la mesure de la tasse de chocolat, pas à celle du nuage de lait. Le lait froid est plus accessible, me direz-vous. Oui, mais le thé s'accommode mal de la tiédeur. Le breuvage enfin prêt, vous vous asseyez et vous laissez infuser. Mais au moment opportun, celui pour lequel vos sens se sont réjouis depuis de longues minutes, vous devez déjà affronter l'exercice périlleux de l'évacuation des déchets, c'est-à-dire du sachet. Vous le tenez, ce sachet, gonflé et alourdi, et qui, tel un pendule, oscille au bout de vos doigts tout dégoulinant, et vous vous demandez où il va finir. Le laisser dans la tasse? Non. On risque en buvant de le prendre sur le nez. Le laisser dans la théière? Non, c'est l'amertume assurée. La sous-tasse, le plateau? Mais non, il va se répandre partout. Dans le cendrier ou la serviette en papier qui brunira rapidement? C'est un spectacle de désolation. Bref, on ne se débarrasse pas si facilement de ce petit objet, somme toute anodin, le sachet. En ce qui concerne les théières dans lesquelles on verse le breuvage tant désiré, la théière en fonte brune japonaise est extrêmement lourde, mais très précise quand le liquide s'en écoule. La théière chinoise, à once en osier, vacille latéralement et avec elle vous manquez de concentration lorsque vous versez, et c'est l'immanquable inondation. Même danger lorsque vous versez immodérément. Et puis, dernière recommandation pour les théières. Attention à leur couvercle. Le pouce et la paume tiendront l'once, tandis que l'index maintiendra le couvercle, lui évitant ainsi une chute malencontreuse dans la tasse. L'anticipation est une qualité inhérente à tout buveur de thé. mais quand vous portez alors la tasse à vos lèvres et dégustez, c'est un voyage sans pareil. Belle félicité que l'art de savourer le thé.
C'était les Popini Sisters qui nous chantaient Java Jive. Et pour terminer nos drôles d'histoires, voici quelques courts poèmes sur le thème de la mort signés Nicolas Letellier. Ces poèmes ont été lus pour la première fois par Lolita en 2004. Depuis, Nicolas Letellier n'a pas cessé d'écrire. Il est même assez prolixe. Il vient d'achever un roman d'anticipation qui devrait sortir en 2009. Il est déjà en train d'en écrire un autre. Et Nicolas Letellier s'est également essayé au récit de voyage lors d'un séjour en Israël en 2006. Mais là, sans chercher à être publié, car il trouve que les récits de voyage sont des écrits trop personnels. Sinon, il a aussi imaginé une pièce de théâtre qu'il se propose de peaufiner. Et bien sûr, il n'envisage pas de vivre sans l'écriture. D'ailleurs, il passe son temps à griffonner des phrases ou des idées sur tous les bouts de papier qui lui tombent sous la main. C'est peut-être comme ça d'ailleurs, sur une multitude de feuilles volantes, que Nicolas Letellier a imaginé cette succession de petits poèmes baptisés « La mort ». « Avez-vous dansé avec la mort un soir d'été? Sans vouloir me vanter, moi je l'ai fait. Je n'ai pu y résister. La tentation était si grande, telle une corde qui attend pour qu'on s'y pende. J'ai valsé avec elle sans remords ni soucis, sachant éperdument que j'allais perdre la vie. Drapée d'une toge vétuste, elle m'a tendu ses bras osseux. Je l'ai rejoint, puis embrassé. J'en étais amoureux. Puis le charme s'est rompu, comme se brise une amitié. Et j'ai vu sa faux dans mon ventre se planter. C'est en voyant mes entrailles tomber à terre que j'ai compris qu'elle m'emportait tout droit en enfer. La mort, c'est comme l'amour, on ne joue pas avec. Sinon, on finit par tout perdre et on en garde un goût abject. Un jour ou l'autre, je me suiciderai. Et personne ne m'ôtera cette idée. Depuis mon enfance, je cherche le moyen fatal qui me conduira à coup sûr vers une mort idéale. Sauter d'un immeuble, plonger dans le vide, me trancher les veines, m'ouvrir le bide, absorber des médicaments jusqu'à la nausée, la corde au cou, juchée sur un tabouret ou me loger une balle, que cela est banal. Alors je cherche jusqu'au jour où je franchirai le non-retour. Car c'est ainsi que je l'ai choisi. Je suis déjà mort, c'est la vie. J'espère que tu seras solide, petite branche. Sous la force de mon poids, ni ne ploie, ni ne penche. Je me retiendrai à tes doigts de bois par cette corde qui me relie à toi. Ma vie fut une véritable rature, une cicatrice, une éraflure. Ce n'est pas un cœur qui sera gravé sur ton tronc, mais mon maigre testament et mon unique pardon. Maintenant je me balance et je m'en balance de toutes les misères de mon adolescence. Je me suis accroché à la vie, je me pense à la mort. Aujourd'hui mon âme aussi vacille. Et se tord. Il est temps de te quitter, petit charme, mais par pitié, ne verse pas de larmes. C'est avec ce dernier poème signé Nicolas Letellier que se referme le deuxième chapitre de notre récit des romans.
L'émission du jour a été préparée avec la complicité de Nathalie Schoenberg, qui a choisi toutes les musiques,
d'Isabelle Barthes, qui a réalisé l'émission,
de Muriel Mera
et de Lolita.
Après les informations, vous retrouverez La Ligne de cœur présentée ce soir par Alain Maillard.
Très belle soirée à vous. Il est 22h sur la première.